Salut à tous, c'est Lou, bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. Et je suis bien évidemment accompagné de Yann.
Salut, ou plutôt devrais-je dire Yanfi. Je suis fatigué, désolé.
Yanchi.
J'ai mal fait.
Comment ça va?
Ça va pas mal. On avait promis de pas faire trop de sujets Nintendo pour cette fin d'année et... En remplacement de quelque chose qui n'a pas pu se faire maintenant, nous allons parler d'un jeu qu'on aime tous les deux et qui n'était pas au programme de la cartouche il y a encore deux semaines.
Mais c'est un jeu qui fout la pêche en plus, ça fait du bien, ça met de bonne humeur. Cette petite musique forcément nous met de bonne humeur, vous la reconnaissez, c'est la musique de Yoshi's Island.
Yes.
Alors, est-ce que tu te souviens quand il est sorti Yoshi's Island?
Je devais être à peine né, c'était quoi, c'était 92
95,
non j'avais 3 ans, ouais. Ok.
Effectivement, on était vers la fin de vie, on peut dire, de la Super Nintendo, parce qu'il y avait les concurrentes qui forcément faisaient de l'œil à l'époque. La 3D, tout le monde...
Et la 64, un an plus tard.
Et la 64 qui a mis beaucoup de temps, l'Ultra, comme on l'appelait encore à l'époque, l'Ultra 64.
C'est vrai.
Et Yoshi's Island est sorti à la surprise générale. Grand titre de plateforme. La plateforme était reine, évidemment, à l'époque. Et c'était un petit peu une espèce de baroud d'honneur de la Super Nintendo.
D'aboutissement du genre sur la console, clairement, oui. Enfin, moi, je lui donne beaucoup de qualité à Yoshi's Island sur Super Nintendo. Donc, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais je trouve qu'il... Oui, c'est une sorte de perfectionnement d'un genre que certaines équipes chez Nintendo ont travaillé année après année depuis les années 80, quoi.
Alors déjà, toi, tu l'as rencontré comment, ce jeu? Quand est-ce que tu l'as fait pour la première fois?
Sur Game Boy Advance, puisque j'étais pile dans la bonne tranche d'âge au moment où il est ressorti sur Game Boy Advance. Je venais d'avoir la console, il sort dessus. Et pour moi, c'était un nouveau jeu, en fait. Pour moi, dans les années 2000 et quelques, c'était un nouveau jeu. Alors, la version GBA, d'ailleurs, c'est une version un petit peu augmentée, avec quelques niveaux en plus. Oui.
Augmentée et diminuée aussi.
Et diminuée d'un point de vue sonore, je crois, principalement.
D'un point de vue sonore, d'un point de vue graphique aussi.
Donc, j'ai jamais trouvé ça. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que c'était deux variations. Mais qu'il y avait visuellement des avantages à chacun. Alors c'est peut-être parce que j'ai grandi avec la version Game Boy Advance, mais il y a certains trucs sur la version Super Nintendo que je trouve primitifs et qui sont un peu moins aliasés, un peu moins simplets sur la
résolution.
GBA.
Ouais. En fait, t'as deux choses. Elle est plus difficile aussi sur GBA pour une raison simple, c'est que le format d'écran n'est pas le même et du coup ton champ de vision est réduit sur Game Boy et du coup ça peut rendre certains niveaux assez compliqués. L'autre point, c'est qu'en fait du coup la puce qui était utilisée pour certains effets de distorsion notamment n'était pas présente sur GBA et du coup certains effets n'étaient pas présents, donc il y a de légères pertes, on va dire, graphiques en termes d'effets, en termes de finition, qui du coup peuvent un petit peu perdre. Moi, je l'avais fait à l'époque sur Super Nintendo, évidemment, parce que j'étais un grand amoureux de la Super Nintendo, et je veux dire que j'avais été assez bluffé par les qualités graphiques quand le jeu a été présenté, quand le jeu a été pitché par Miyamoto. La direction de Nintendo s'attendait en fait à un jeu dans la veine de Donkey Kong Country, c'est-à-dire avec des effets 3D, etc., justement pour rivaliser avec la PlayStation, tout ça, et ses polygones. Et ils ont fait strictement l'inverse, on peut dire. On est sur un jeu en 2D, sur un style crayonné aux couleurs très très vives, et je pense que c'est ce qui a fonctionné aussi quelque part. On va peut-être commencer du coup par parler ce style graphique. Toi, est-ce que ça t'a surpris à l'époque? Comment tu l'as accueilli? Est-ce que tu trouvais ça original? Est-ce que tu...
Je le trouvais plus cartoon et plus crayonné que d'autres jeux. Juste avant l'écran titre, la séquence d'introduction avec en diorama en fait, avec
des l'île qui tourne.
Alors t'as l'île qui tourne, c'est vrai, mais vraiment la petite cinématique avec Kamek où on t'explique comment est-ce que bébé Mario est arrivé sur l'île des Yoshi, etc.
C'est magnifique.
C'est de la pâte à modeler ou c'est assez difficile
à
décrire.
C'est du crayonné. Ouais.
Crayonné, pâte à modeler, etc. Ça a donné le là de cette esthétique enfantine qu'on a retrouvé dans d'autres jeux Yoshi, mais aussi dans d'autres jeux Kirby et d'autres licences encore. Donc c'est la première expression, on va dire clairement, de ça chez Nintendo. Oui, c'est un peu plus poussé dans ce genre-là, mais à l'époque, ça m'avait pas tant surpris que ça. Clairement, le jeu a son identité. identité, comparé notamment aux autres jeux Mario sur Game Boy Advance, que ce soit la version améliorée de Super Mario Bros. 2, que ce soit Super Mario Bros. 3, ou que ce soit Super Mario World. Clairement, il est dans sa catégorie. D'ailleurs, on ne joue pas directement Mario, on joue bébé Mario qui chevauche un Yoshi.
Bah, on joue Yoshi, plus Yoshi, en fait, finalement.
Qui effectivement fait balader bébé Mario à travers six mondes. De quelques niveaux chacun plus de boss par monde, donc c'est visuellement, je dirais, très sympathique, mais j'ai pas trouvé ça non plus révolutionnaire, parce que bah, à l'époque où j'y ai joué, ce genre de visuel là c'était pas non plus le extraordinaire, c'était pas, ça ressortait pas à ce point là de l'ordinaire, mais je dois lui reconnaître une qualité intemporelle. Je pense que ce jeu là tu le ressors dans 20 ans, il sera toujours esthétiquement sympa, parce qu'il joue beaucoup avec les limites de ce que sa console d'origine peut faire, et il comprend bien ses limites avec son côté très ligne claire, les bords foncés autour de chaque objet, autour de chaque élément de décor, ça rend bien.
Je me souviens de la publicité à l'époque qui passait à la télévision, qui était vraiment... Mais je m'en souviens parce que c'est marrant, parce que je parlais de la publicité de Super Mario All-Stars la fois dernière, comme quoi les pubs ça m'avait marqué à l'époque. Elle était vraiment... à contre-pied aussi pour le coup du jeu, c'est-à-dire que je crois que c'était un jeune, enfin une espèce de...
qui s'empiffre
c'était un jeune, mais vraiment, comment dire, jeune de banlieue, tu vois, un petit peu presque, qui... enfin super cool, tu vois, qui doit écouter du rap, j'en sais rien trop, qui parle un petit peu en verlan ou des choses comme ça, et avec des expressions un peu marrantes, et je crois que c'est quelqu'un qui disait quoi, tu connais pas Yoshi et tout machin, enfin c'était assez assez marrant.
Allez,
En fait, quand il est sorti, on peut dire que c'était un petit peu Mario qui rencontre Kirby, je trouve, en termes d'univers, mais aussi en termes de conception de la plateforme.
Alors,
parce que
ouais,
en fait, dans la façon dont tu, enfin les niveaux, le concept de jeu de plateforme, il est tellement différent entre Super Mario World et Yoshi's Island que, en fait, nous on le connaît sous Super Mario World 2 en général, on en parle comme ça, mais ça c'est juste une appellation marketing pour l'export. Au Japon, il a jamais été brandé comme Super Mario World 2. On l'a rattaché en fait à Mario un petit peu plus tard, mais c'était vraiment le premier épisode de la saga Yoshi. Mais le genre de jeu est très différent, et autant dans Super Mario World, on va dire que t'as beaucoup de vide, tout ça, que ça reste le grand danger, ben c'est juste sauter, éviter les ennemis, tout ça. Dans Yoshi's Island, c'est quand même un peu plus de l'exploration, en fait, au
Exactement.
final.
Exactement. C'est vraiment un trade-off entre l'adresse et l'exploration, la différence entre ces deux jeux. Et tu l'as dit, Super Mario World, tu peux avoir des espaces assez vides, notamment quand tu voles, tu te rends assez vite compte que t'envolais avec la cape. Oui, c'est sympa, mais ça sert surtout à passer les niveaux qui sont ouverts, ça sert pas vraiment à grand-chose d'autre. Et peut-être à quelques passages avec de l'adresse, mais qui sont assez limités. Là où il y a une vraie économie du level design et du level design étriqué du donjon, c'est pour ça qu'on a deux donjons et deux donjons bien identifiés, bien différents les uns des autres par monde. Ça se prête bien à ce jeu-là, ça se prête bien à cette philosophie de jeu d'avoir autant de labyrinthes dans Super Mario World 2 Yoshi's Island, effectivement.
Moi, il y a une chose qui m'a un peu déçu dans Yoshi's Island, c'est la chose qui me déçoit le plus à chaque fois, parce que c'est en lien direct avec ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est qu'il n'y a pas de carte du monde. On revient à une suite de niveaux très très linéaires. Non, mais enfin, t'as pas de carte...
C'est littéralement une carte du monde, mais t'avances de l'un à l'autre.
Non, mais on se comprend. Mais c'est pas comme dans Super Mario World, tu vois, c'est pas une map ou Super Mario Bros 3, même classiquement.
T'as pas de passage secret, t'as pas de niveau secondaire, ou quasiment pas.
Bah, t'as un niveau en plus par monde quand tu réussis à avoir les 100
parfait.
Étoiles, le score parfait, ouais. Les 100 points, pas les 100 étoiles, pardon. Et d'ailleurs, t'as une deuxième fournée supplémentaire dans la version Game Boy
Voilà,
Advance.
C'est ça. Quand je parlais du contenu supplémentaire, c'est cette deuxième fournée de niveaux.
Ils sont pas mal, d'ailleurs, les niveaux originaux.
Certains sont un peu gimmicks, mais ils sont sympas.
Ah, le dernier. Je crois que j'ai jamais réussi à le finir. Il est tellement, tellement chaud que... Toi, ça t'a pas gêné, cette linéarité très poussée, du coup, dans le jeu?
Bah, en fait, elle amène de grandes qualités. Moi, je trouve que ça en fait un jeu extrêmement moderne. Alors, d'une part, parce que la progression est sauvegardée après chaque niveau, ce qui est rare pour un jeu Super Nintendo. On prend l'exemple de Super Mario World, par exemple. Le jeu est sauvegardé, oui, mais à chaque fin de monde, ou en tout cas, à chaque fois qu'on arrive à conquérir une forteresse. Là... il y a vraiment une structure niveau après niveau où chaque niveau raconte sa petite histoire. Alors certes, ouais, c'est linéaire, mais finalement, c'est l'ancêtre de Super Mario Galaxy. C'est l'ancêtre du jeu qui te prend la main, qui te donne une direction et qui te fait passer des hauts et des bas, des passages plus faciles, des passages plus difficiles, des passages un peu excitants, comme par exemple quand tu dévales, quand tu donnes des skis à Yoshi et que tu dévales une montagne, ce genre de choses. C'est ça que je trouve intéressant et il se donne beaucoup de possibilités. Là où Super Mario World, il y a ce challenge principalement dans l'adresse et il y a des idées qui sont différentes à chaque niveau, mais les quelques niveaux que tu vas avoir par exemple dans le premier monde ou dans le monde aquatique, etc., bah, ça va être des niveaux aquatiques, ça va être des niveaux qui vont être liés à la topographie générale du monde. Là où Yoshi's Island se permet beaucoup plus de faire voyager le joueur d'un niveau à un autre, même si tu peux avoir certains mondes thématiques. Par exemple, je crois que c'est le cinquième monde où on va à la montagne, on va toucher aux remontées mécaniques, ce qui est d'ailleurs un truc très fun. On va dévaler on va y aller en ski. Il y a plein de petits gimmicks qui sont développés à partir de là, mais chaque niveau à son idée, à ses spécificités, ce qui n'est pas forcément le cas d'un jeu de plateforme classique. Et évidemment, le contre-exemple total, c'est Super Mario Bros, où littéralement, du 1-1 au 8-4, à l'exception du dernier niveau de chaque monde, qui est le niveau forteresse, ils sont un peu interchangeables, quoi.
Ouais, t'as des petits thèmes quand même dans Super Mario Bros. C'est moins visible, on va dire, du fait des restrictions déjà.
Là, on nous donne vraiment le là de ce que va être un jeu de plateforme 2D pour les 10, 15, 20 années à venir. Clairement, il y a une forte inspiration, pas nécessairement dans le gameplay, parce qu'il a un gameplay très particulier avec ses œufs. Tu disais tout à l'heure que Yoshi's Island, c'est pas mal une inspiration de Kirby. Oui, dans une certaine matière, parce qu'il y a l'idée d'aspirer ses ennemis. Alors, cette fois-ci, avec la langue de Yoshi, qui peut les digérer pour la plupart, et en faire des projectiles, des œufs, qui peuvent être lancés ensuite pour aller choper un objet quelque part qui est trop difficile d'atteindre, frapper des nuages qui fonctionnent comme des blocs points d'interrogation et qui déclenchent quelque chose quand on les touche, un petit peu des interrupteurs, frapper des ennemis, frapper des boss, etc., etc. Et cette mécanique de lancer là, elle fait clairement tout le sel de Yoshi's Island, parce qu'elle donne à Yoshi, au-delà de son saut et de son maintien en l'air prolongé si on appuie sur le bouton, qui d'ailleurs est devenu un mouvement typique de Yoshi à partir de ce jeu-là, l'œuf permet vraiment de toucher quelque chose d'autre, même de jouer avec les rebonds, de jouer avec les ricochets. Enfin, il y a plein de petites idées qui sont liées à ça. Il est même possible de tuer un boss plus tôt que prévu avec l'œuf. C'est la petite plante Pyrama. Avant que Kamek la fasse grandir, on peut lui tirer dessus. Et ensuite, t'as Kamek qui vient et qui fait « Non !» et qui se barre. C'est très très drôle. Donc je trouve au contraire que ce jeu-là vraiment fourmille de petites idées. Et certes, il est linéaire, mais c'est un trade-off, c'est un prêté pour un rendu, ça vaut vraiment le coup.
Bah, quand je le compare à Kirby, c'est aussi dans cette approche du level design. Déjà, tu l'évoques avec le fait que Yoshi ait ce saut augmenté, on peut dire.
Oui.
Ça permet de corriger tout de suite le problème de précision, finalement. C'est que tu peux assurer tous tes sauts, tu n'as plus de problème de grande surface à sauter, etc. Mm-hmm. Même si tu as des niveaux qui se passent entièrement dans le vide et ça complexifie. Donc, tu te débarrasses un petit peu de du problème du vide, hein, le danger primordial du coup du jeu de plateforme.
C'est vrai, mais tu peux avoir un peu trop confiance en toi-même et finir quand même dans un trou.
Bien sûr. Ça reste une assurance quand même beaucoup plus stable que dans Super Mario World, par exemple, pour citer son prédécesseur immédiat. Et l'autre point, c'est que du coup, la linéarité finalement de l'agencement des niveaux, elle est complètement balayée par les niveaux en eux-mêmes, qui sont des espèces de fourmillements labyrinthiques avec des portes, des grottes, des machins, des ceci, des cela qui vont dans tous les sens. Un peu comme dans le niveau Kirby, justement, où tu essaies de fouiller pour les 100%. Je pense au jeu Kirby, parce que Kirby est simple en ligne droite, mais pour essayer d'avoir les 100%, c'est assez difficile. Et je trouve que l'obtention des 100% dans Yoshi, qui se base sur trois critères, donc les fleurs à récupérer, les pièces rouges qui sont bien cachées et qui se confondent avec les pièces jaunes par moment.
Oui, elles ont une teinte différente dans la version Super NES, elles n'ont pas une teinte différente dans la version GBA.
Ah, ça c'est très...
Sauf erreur.
Et également les étoiles qui sont un petit peu les secondes qui permettent à Yoshi de récupérer bébé Mario. Donc ça veut dire que tu dois finir avec ton compteur à 30, donc au maximum, pour essayer d'avoir les 100% à chaque fois.
C'est un équivalent de point de vie. Si on tombe à zéro, bébé Mario s'envole, enfin est kidnappé et du coup on a perdu sa vie.
Et c'est pas évident et ça ajoute quand même un sacré gros challenge. Et ça, c'était des choses qu'on avait pas vraiment,
parce que ça nécessite de terminer le niveau sans se faire toucher une fois, sans faire d'erreur en fait, en quelque sorte.
Donc ça c'était intéressant et ça permettait vraiment de booster la durée de vie, puisque ton objectif principal, il n'était pas seulement de traverser le niveau,
ça permet
vraiment d'explorer au maximum tous les recoins.
Carrément, ça permet d'adapter la difficulté également, parce que faire 100 sur chaque niveau de ce jeu-là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps que simplement battre Bowser.
Est-ce que tu l'avais fait?
Bad Bowser ou
faire 100. Bah, déjà Bowser, il est pas simple. Sans, le boss de fin, il était pas simple.
100 à littéralement tout, non. Mais j'étais tombé pas loin, sauf erreur.
Je pourrais
presque
fait,
aller l'avais... chercher dans l'after show. J'irais peut-être aller chercher ma copie de la version GBA.
Je l'avais fait sur SNES.
Pour voir. Qu'est-ce qu'on disait? Bowser, oui. Bah Bowser. Le truc que je voulais dire par rapport au combat contre Bowser, plutôt Bowser Junior, parce que c'est contre lui en fait qu'on fait face.
Bébé Bowser.
Bébé Bowser.
Attention.
Ah oui, c'est vrai. Là.
Attention.
Le lore extrêmement compliqué.
Ah, c'est pas compliqué. Bowser Junior, c'est l'enfant de Bowser, oui. Et bébé Bowser, c'est Bowser quand il est bébé.
Oui, mais faire cohabiter les deux dans un même jeu, ce qui est pas le cas dans ce jeu-là, mais ce qui arrive plus tard, est toujours très étrange. Je sais plus lequel, mais je crois que ça arrive à un moment. Peut-être un Mario Party ou un truc dans le genre.
Je suis pas sûr parce que bébé Bowser, on l'a pas revu depuis.
Crafted World, je crois qu'il est dedans. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est dedans. Bref.
Ah oui, peut-être effectivement. Enfin, dans les jeux Yoshi, oui, c'est vrai qu'en général, les jeux Yoshi, dès qu'il y a bébé Mario, en fait, c'est bébé Bowser l'adversaire, par définition.
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, Lou. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Bowser, combat contre Bowser, ok. je viens de réaliser du coup après cette parenthèse. Il est difficile, oui et non en fait. Déjà, le thème musical est absolument incroyable. On arrive à simuler de la guitare hard rock sur Super NES, c'est génial. Mais non, ce que je voulais souligner surtout, c'est la visée. Parce qu'en fait, pendant tout le jeu, on vise sur le côté et là, on doit viser en face.
C'est ça qui est difficile, je trouve.
C'est difficile, mais... quand tu t'y habitues, ça devient beaucoup plus facile. C'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment un coup à choper. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et c'est un coup à choper, et en fait, c'est que t'as pas. À la fin,
tu n'as que quelques secondes.
C'est contre la montre. Hein. C'était horrible.
Parce que tout s'écroule autour de toi, effectivement. Mais
si
on peut revenir un instant sur le lancer des œufs, il y a un truc qui fait que pour moi, la version GBA est supérieure à la version Super NES, c'est la sélection des touches. Parce qu'en fait, dans la version Super NES, c'est le bouton A qui est utilisé pour lancer l'œuf. Alors, que ce soit en mode rapide ou en mode lent, où il faut d'abord verrouiller la cible, puis tirer ensuite, ou le mode rapide, où simplement tu appuies, puis tu relâches quand la cible est au bon endroit. Je trouve que c'est beaucoup mieux sur Game Boy Advance, où l'imitation de bouton oblige. Tu as le bouton A pour sauter, le bouton B pour utiliser ta langue, cracher, etc. Et le bouton R, donc le bouton de la gâchette, pour le faire. Je trouve ça beaucoup plus intelligent d'utiliser la gâchette. Mmh. Enfin, je trouve ça beaucoup plus naturel, en fait.
C'était pas possible du tout sur SNES?
Sauf erreur, non.
Tu mets un petit doute. Mais
sauf erreur, non.
Ah, je crois que c'était peut-être le lock
ouais,
à l'époque.
Mais c'est dommage, justement, que tu puisses pas tout faire avec ce bouton-là, parce que honnêtement, je trouve que ça marche bien sur GBA, et comme j'ai fait la version GBA d'abord et la version Super Nintendo ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a quelques trucs comme ça, c'est pareil pour Super Mario World, par exemple, où le saut tourbillon est sur le bouton R dans la version Game Boy Advance. Je trouve que ça marche mieux sur l'ergonomie Game Boy Advance, alors qu'en soi, c'est sur une console qui est plus limitée en termes de boutons, que sur Super Nintendo, qui est le support d'origine. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont spécialement marqué dans ce jeu?
La traduction, le titre des niveaux à une époque où c'était pas forcément évident, au-delà...
Cotonou Prout Prout.
Voilà, Cotonou Prout Prout. Non mais vraiment, il y a
Qui a été renommé dans la version Game Boy Advance justement, Cotonou les Flots.
Cotonou les Flots, oui voilà.
Je pense que, oh là là mon dieu, ils ont dit Prout dans un jeu vidéo, on ne peut pas laisser ça.
Peggy 12.
Famille de France.
Famille de France, c'est ça. Ah mon dieu. Non, si tu veux, moi, ce qui me marque sur ce jeu-là, c'est moins un niveau en particulier. Encore que, tu vois, à reparler du niveau de ski, etc., il y a certaines transformations de Yoshi ou certains véhicules qu'il utilise dans l'aventure que je trouve amusants. notamment
bah, les hélicos, le train.
Moi, c'est notamment la voiture, parce que enfin, la voiture de course.
Ouais, la voiture avec les jambes qui se lèvent, tout ça.
Exactement. Ça, je trouve fun et rigolo, et je pense que ils auraient même pu en faire un peu plus avec, tu vois. J'aurais préféré peut-être qu'ils lâchent genre la taupe ou l'hélicoptère et qu'ils fassent un peu plus avec ça.
La taupe, il y en a un peu trop. C'est pas le plus.
La taupe, c'est le plus chiant, et il y en a beaucoup, et c'est du contre-la-montre pour aller chercher des pièces rouges généralement. Et
alors, moi, il y a quand même un truc qui m'a marqué. Il faut absolument qu'on en parle. Et je trouve ça phénoménal. C'était les boss.
Oui.
Les boss. Enfin, ils sont oufissimes. Le Ménat sur la lune.
Le Ménat sur la lune est cool. Enfin, le
contre-oiseau. Il est coolissime. Enfin, l'effet visuel. La plante piranha. Le fantôme dans son pot.
Le concept que je trouve le plus rigolo, probablement, c'est le fantôme dans son pot. Le Koopa est marrant. Il faut renverser le Koopa.
La grenouille. Ouais. La grenouille où t'es dans son ventre. Mais avec l'acide qui t'attaque.
Tu sais quoi?
Je trouvais les boss, ils me rendaient fou à chaque fois. Gros Bélix.
Les boss sont intelligents. Les Bélixos, s'il te plaît. Ils s'appellent les Bélixos, ce que je trouve assez ridicule, parce qu'effectivement, ils ressemblent à
Bélix. Je crois que dans la publicité, il s'appelait et le mec disait Gros Bélix dans la publicité, je crois que c'est pour ça.
Gros Bélix, Gros Bélix, ça fait un peu nom de Pokémon, je veux pas dire, mais.
Faudrait que je retrouve cette publicité pour que je la monte, et je crois que dans la publicité, ils disaient Gros Bélix.
Ah, c'est marrant ça. Mais en tout cas, sur la VF que j'ai eue, c'est des Bélixos. Plus que les boss, je dirais le level design des donjons est hyper ingénieux et change vraiment de monde en monde. Il y a deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux forteresses par monde, et chacune a ses petites idées. Il y en a un, je crois que tu finis dans un estomac, ce qui n'est pas la dernière fois d'ailleurs que c'est devenu un trope de boss de jeu de plateforme. Genre Rayman Origins, ça fait pareil par exemple. Mais je crois que c'est un des, à ma connaissance en tout cas, c'est un des premiers jeux à avoir fait ça. Non, c'est vrai qu'il y a des bonnes, des chouettes idées, aussi bien dans les donjons que dans les boss, que dans les niveaux en eux-mêmes, hein. Je veux pas bouder mon plaisir. Vraiment, chaque niveau a sa petite idée. Je tiens mordicus à ce fait-là, beaucoup plus qu'un Mario World ou qu'un Mario Bros.
Justement, qu'est-ce que tu, entre Mario World et Yoshi's Island, alors c'est une comparaison que je trouve assez délicate. Tu sais que plus le temps passe, plus j'ai de mal à comparer des jeux, à dire lequel je préfère. C'est terrible.
C'est comme en fait, c'est le même dilemme qu'entre Mario 3 et Mario World, parce que les trois jeux, du coup, Mario 3, Mario World et Yoshi's Island, ont leur qualité. Je suis peut-être plus à même de comparer 3 et World, parce que au moins c'est des jeux qui essayent d'avoir le même gameplay relativement. Tandis que Yoshi's Island est dans un autre délire, et aussi bien visuellement qu'en termes de level design, enfin, je veux dire le level design de la grille où tous les éléments sont alignés sur une grille à la Super Mario Bros ou à la Super Mario Maker, on peut le penser comme ça. Yoshi's Island pète complètement ça, avec ses courbes, avec ses trucs, ses machins, avec son petit chien qui se balade, enfin,
Pucci,
voilà. Non, c'est un jeu foutraque, mais c'est un jeu foutraque dans le bon sens du terme. Et si tu veux, c'est une expérimentation comme Wario Land en a été une autre, Yoshi's Island, à mon avis. C'est une époque, c'est les années 90, où, c'est acquis. La formule de jeu de plateforme Super Mario Bros, Super Mario World, elle fonctionne bien. Mais maintenant, on va essayer d'autres choses. On va essayer Yoshi's Island. Sur Game Boy, on va essayer Super Mario Land, puis Super Mario Land 2, puis Wario Land, qui est encore dans un autre délire. Ça va créer une licence à part entière. Donc on sent vraiment ce bouillonnement des années 90 où, ça y est, on maîtrise bien le jeu Mario, on maîtrise bien le jeu Zelda. Maintenant, on va essayer de triturer un peu tout ça, de déformer un peu tout ça, de donner un twist, de donner un gimmick. Et Yoshi's Island, à mon avis, fait partie de cette histoire-là. Des jeux qui ont cette filiation de ces grands originaux et qui essayent autre chose et qui, en eux-mêmes, parce qu'ils ont réussi ce qu'ils ont tenté, ce qu'ils ont voulu faire, sont devenus cultes, sont devenus des points vraiment importants de l'histoire du genre, de l'histoire de la console sur laquelle ils sont sortis, etc., etc.
Du coup, il y a une postérité, hein, finalement, la licence Yoshi. On a retrouvé Yoshi's Story après, etc. Mais on a eu aussi, surtout, des suites à Yoshi's Island. Ouais. On a eu Yoshi's Island DS et New Yoshi's Island, je crois, quelque chose comme ça. Yoshi's New Island, quelque chose comme ça.
Oui, même si en soi,
est-ce que tu les as fait?
Alors, New Yoshi's Island, toujours pas. Et j'attends qu'il soit littéralement à une sous-bouchée de pain pour le prendre sur 3DS, parce que j'en ai pas entendu que du bien. Tous les autres, je les ai faits. Yoshi's Island DS, c'est vraiment le gimmick. Je sais pas si tu l'avais fait, toi.
Ouais, alors j'ai fait le DS et le New.
Le DS et le gimmick, on est d'accord.
Le DS, j'ai J'ai pas aimé.
T'as plein de bébés différents.
C'est ça, t'as le bébé Donkey, bébé Wario,
Peach.
Bébé Peach avec l'ombrelle. Et je trouvais que Mew était Mew était bien mieux travaillé en tout cas.
Plus enfantin, mais plus fidèle à
oui,
Yoshi's Island.
Surtout ça, ouais.
À mon avis, le meilleur vient ensuite, c'est Woolly World sur Wii U, qui est ingénieux, qui est beau, la bande son est chef kiss, magnifique,
et qui est mieux que Crafted World, je trouve.
Oui,
Crafted World, j'ai été un poil déçu quand même.
Crafted World est sympa, mais tandis que Yoshi Woolly World est vraiment le plus proche, tout en faisant les choses à sa sauce, du génie du premier Yoshi's Island.
Ouais, je trouve que c'est vraiment... Après, la licence Yoshi, je la trouve un petit peu compliquée. Il y a toujours eu cette espèce de double tentation entre faire un jeu
pour débutants
accessible à tous, simple,
ouais,
et en même temps, on va rajouter des petits trucs compliqués, et... le mélange prend pas toujours, et souvent quand ça prend pas, c'est souvent un problème justement entre ces deux, enfin c'est le cul entre deux chaises, et qu'on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et souvent je crois que c'est ça, de mon point de vue en tant que joueur, c'est moi ce qui me pose problème. C'est que je vais être frustré parce qu'il y a des niveaux que je traverse hyper facilement, et à l'inverse il y a des trucs que putain, ce truc là est beaucoup trop difficile, ça a pas de sens, enfin
Pour être tout à fait honnête, la licence Yoshi, j'en avais fait une partie de mon argument quand j'avais fait un papier justement rétrospectif sur la licence Yoshi quand Crafted World était sorti sur Switch. J'avais fait un de mes premiers papiers sur Red Bull Gaming, où en gros je disais, je crois toujours en ça, que pour la plupart des jeux Yoshi qui sont sortis après Yoshi's Island, il y a toujours eu cette tentation de rendre hommage à Yoshi's Island et d'être finalement complètement dans l'évocation, complètement dans la nostalgie. Et au final, c'est ça le fil à la patte, c'est ça le problème de la licence Yoshi, c'est qu'il est constamment dans cette évocation du précédent. Tu peux pas aujourd'hui faire un jeu Yoshi sans les œufs. Théoriquement, tu pourrais, mais Nintendo veut pas se le permettre, ou les studios qui travaillent là-dessus pour Nintendo soit ne veulent pas se le permettre, soit ne sont pas autorisés à prendre suffisamment d'écart avec la formule de départ. Et je trouve ça dommage, parce que avec le moveset habituel de Yoshi sans les œufs, ou avec l'univers de Yoshi, il y a des choses intéressantes à faire. S'il y a des choses intéressantes à faire avec Mario encore en 2017, comme avec Super Mario Odyssey par exemple, il y a forcément encore des trucs intéressants à faire avec Yoshi en 2020. Donc je suis à l'affût du moment où on sortira un petit peu Yoshi de son carcan de Yoshi's Island, qui est une excellente référence, mais qui doit pas être la prison, on va dire, de cette licence.
Et là, tu viens de me planter un couteau dans le dos en me rappelant que Mario Odyssey est sorti il y a déjà 3 ans.
Eh oui,
bientôt 4.
Fin 2017.
Non,
tout juste 3 ans. Tout
bon,
juste
ça va,
3 ans.
Ça va. Parce que j'arrive bientôt en 2021. Donc
non, c'est bientôt les 4 ans de Breath of the Wild, pardon.
Voilà, tu me fais mal, les 4 ans de la Switch. Vous vous rendez-vous compte, chers amis? Justement, si on veut jouer à Yoshi's Island, aujourd'hui, on fait comment?
Il y a deux possibilités si on veut y jouer légalement. La première, c'est de prendre une Wii U et de télécharger la version console virtuelle de la version Game Boy Advance. Et la deuxième solution, c'est de jouer à Super Nintendo Switch Online sur sa Nintendo Switch, si vous avez un abonnement Switch Online. Il est dedans. Voilà.
J'en
veux
une troisième.
Il te faut une troisième façon? Il y a quoi?
La SNES Mini.
Ah mais oui! S'il en reste quelque part des stocks, effectivement, volez-la chez vos voisins. Voilà. Ne volez pas, venez la mienne.
Empruntez-la à vos amis.
Ceci dit, vraiment, sur Switch, je trouve ça un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que les boutons de face de la Switch sont un peu plus rapprochés que ceux de la manette Super Nintendo de base. Encore plus si vous utilisez les Joy-Con, par exemple. Et je trouve ça plus confortable pour pouvoir justement lancer ces fichus œufs avec le bouton A. Donc, quitte à le faire sur la version Super NES, faites-le sur Switch.
Très bien, je pense que si vous êtes fan de Yoshi, tu as quelque chose à proposer, mon cher Yann.
Exactement. j'ai pas du tout dit exactement pour meubler, je sais ce que je puisse habiliter sur le bouton qui nous a permis de lancer ce sample. Donc, c'est le moment de l'émission où on vous recommande habituellement un épisode d'une autre émission. Bah là, non, j'ai envie de vous parler de l'épisode 41 de La Cartouche qui date du mois d'avril 2019 et dans lequel on discutait justement de Yoshi's Crafted World, c'est-à-dire du jeu Yoshi le plus récent à ce jour. On y parlait également de la rumeur du lancement de deux nouveaux modèles de Switch qui se sont avérés être après coup la Switch avec la meilleure durée de batterie et la Switch Lite. L'épisode est disponible dans le flux podcast que vous écoutez maintenant, hein, c'est celui de cet épisode, donc ça va pas être compliqué à trouver, c'est l'épisode 41 intitulé Yoshi's Crafted World Tropico 6, Baba Is You et Do of Man. Hey, on a du courrier, mon cher Lou.
Eh oui, on a du courrier, évidemment, que ce soit sur Twitter ou par email, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappellerai, évidemment, les façons de faire à la fin de cet épisode. Tout d'abord, c'est Jibar. Hello Yann, hello Lou. Hâte, comme chaque année, de vous retrouver, comme chaque semaine, pardon, comme chaque année, le podcast annuel. C'est limite plus hypant que la sortie de la Next Gen, c'est pour dire. Bon, ça, c'est gentil, mais je pense que
c'est soit gentil, soit vraiment méprisant pour la Next Gen.
Effectivement.
À choisir.
À quand un spécial épisode sur les MMO? Un top, votre avis, leur place dans le JV actuel et futur, virtuellement à bientôt.
Je sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas du tout MMO, donc
moi non plus.
Bruit de criquet.
C'est le gros problème. Je m'y suis mis très récemment avec FF14 grâce à l'impulsion de mon ami Kassim du coup, et j'aime beaucoup. Je dois dire, j'aime beaucoup FF14. Je m'amuse bien avec, mais je suis pas du tout un expert du genre. Donc s'il faut qu'on en parle, faudra qu'on invite des gens. On peut inviter Lucille par exemple, qui est une grande joueuse de World of Warcraft,
ou on fait aussi un épisode pourquoi on ne joue pas au MMO.
Pourquoi tu joues pas au MMO d'ailleurs, toi Yann?
C'est la même réponse que pourquoi je joue pas à la plupart des RPG, c'est parce que j'ai pas le temps. j'ai pas le temps et j'ai pas le courage.
Il faut un investissement, c'est sûr que c'est un jeu où il faut s'investir. Moi, c'est en général, c'est pour la colonne vertébrale. J'aime bien les jeux où t'as une vraie colonne vertébrale et où tu suis une quête. C'est ce qui m'avait un petit peu pas déplu mais manqué dans Breath of the Wild, hein. C'est que moi j'aime bien le côté la narration, la progression, tous ces effets un petit peu de mise en scène qui sont qui ont plus tendance à être absents dans le MMO, qui sont pourtant présents, je le vois dans FF14, hein, ils sont complètement là, mais c'est dilué dans l'expérience globale en fait, qui fait que ça a un peu tendance à me sortir en fait du jeu vidéo, de se dire tiens, il y a un personnage qui se déplace un peu bizarrement, enfin juste de manière au contraire très très humaine, enfin très enfin pas programmé, en tout cas il se déplace vraiment de manière utilitaire contrairement au PNJ, et ça a tendance à me sortir des jeux en fait finalement, donc j'y joue de manière un peu plus loisir que grande aventure, c'est ce qui me bloque le plus dans les MMO.
J'en discutais encore avec quelqu'un d'autre il y a cette semaine, pour le coup les MMO en vrai c'est une expérience sociale, et comment dire, si t'as pas de gens autour de toi qui jouent déjà à un MMO ou MMO que tu ziotes, il y a assez peu de chances finalement que tu plonges dedans. C'est vraiment, je vais pas dire une sorte de pression sociale, mais c'est lié clairement, à mon avis, au contexte autour de toi. Et donc, comme personne joue au MMO autour de moi, eh bien voilà.
Très bien. Eh bien, Nikos, je ne sais pas si c'est Nikos Allegas, mais en tout cas, c'est Nikos qui nous dit « Je sais que vous avez une petite passion pour les jeux de société plateau. Depuis un moment, les licences basculent de l'un vers l'autre. Quelle licence de jeu vidéo rêvez-vous de voir porter en jeu de plateau et inversement, mon cher Yann ? Est-ce que tu as une idée ?»
De jeu de plateau converti en jeu vidéo, j'ai rien qui me vient en tête immédiatement. Bah, c'est toujours fun de faire un peu de Monopoly ou un peu de trucs dans le genre, y compris par écran interposé, surtout dans notre époque de Covid. Mais par contre, de jeux vidéo transposés en jeu de plateau, j'ai très envie de jouer.
Hein.
On en a parlé du coup la semaine dernière à Reigns, qui a été adapté via un Kickstarter en jeu de plateau. Et ça a l'air fun, donc pourquoi pas. Ou peut-être ce serait rigolo un Among Us mais en jeu de plateau.
ça pourrait exister. Bon, c'est les loups-garous de Tiercelu.
Non, je sais, mais vraiment de reprendre complètement la licence Among Us, ce serait assez marrant.
En réalisant des tâches, ça peut être sympa de trouver un moyen de faire réaliser des tâches, je sais pas, avec des cartes, avec des choses comme ça.
Tu fais des maths.
Moi, de côté jeu de société en jeu vidéo. La bascule entre les deux est pas forcément simple. J'aime beaucoup le jeu Mysterium, qui est un de mes jeux préférés de Libellude que j'adore, rien que pour son esthétique déjà magnifique. C'est une sorte de de Cluedo, et peut-être qu'il y aurait des choses à faire autour. J'aime beaucoup Abyss, j'aime beaucoup Catan, je me retourne pour essayer de trouver l'inspiration, mais voilà, ça va être beaucoup de Dominion aussi, qui est un jeu de cartes, un jeu de cartes qui est génial, Dominion, enfin voilà, il y a plein de jeux, plein de jeux géniaux. Ah, un que j'adore, c'est, mince, attends,
faut que je trouve le nom. Ah, j'ai oublié.
Clank, super Clank. Enfin voilà, c'est plein de jeux, peut-être que ça vous dit rien, mais c'est des jeux très différents et souvent comment adapter. Peut-être le plus facile, c'est d'adapter des jeux de gestion plateau en jeux de gestion finalement jeux vidéo, parce que c'est assez simple. Terraforming Mars par exemple, l'adaptation en jeux vidéo, elle est vraiment très bien, je vous la conseille, c'est un très bon jeu aussi. Et à l'inverse, qu'est-ce que j'aimerais voir Ça peut paraître un peu étrange, mais y a des jeux déjà comme Civilization qui existent en jeu de plateau et qui sont formidables, vraiment. Mais c'est extrêmement dense, hein. C'est un jeu où vraiment pour 3-4 heures, hein, tu prends ton après-midi. Mais des jeux par exemple comme les Sims, qu'est-ce que ça pourrait donner les Sims en jeu de plateau? Et vraiment, ça me rend très curieux. J'aimerais bien jouer un jeu qui adapte finalement la vie quotidienne. Dans ce cas le plus banal, en la rendant malgré tout intéressante, c'est quand même formidable.
Il y a un côté un peu le jeu de la vie, je sais plus comment ça s'appelle.
Destin.
Ouais.
Jouer à Destin pour changer de vie. Il y avait ça, il y a.
Mais qui a été converti en jeu vidéo d'ailleurs, en parenthèse.
Alors attends, comment il s'appelait ce jeu
sur PS,
Carrière, que j'aimais beaucoup, qui est pas du tout connu,
Barrière.
Qui était très intéressant. Carrière.
Ah, carrière.
Où tu Barrière.
Non, ça c'est ma carrière.
C'est où
carrière,
tu choisis en fait le métier que tu vas faire, tout ça, si tu fais des longues études, et un petit côté destin un petit peu différent malgré tout, et que j'aimais bien
effectivement. Non, voilà, c'est pour ça, en fait c'est pour ça que je pensais le jeu de la vie, parce qu'en fait c'est destin de point le jeu de la vie.
Ouais, c'est ça, c'est destin, mais carrière qui était vraiment vraiment pas mal. Et du coup les Sims, ça me rendrait vraiment très curieux. Parce que après, j'aime beaucoup justement cette façon de traduire le jeu vidéo en jeu physique. Enfin, on l'a vu par exemple avec les Lego Super Mario,
oui,
que je trouve intéressant. Et il manque quand même quelque chose. Hein. Ils ont loupé quelque chose malheureusement. La contrainte de temps qui est pas forcément. Enfin, il y a trop d'aléatoires. Il y a pas assez de. Il manque un truc plus carré, en fait, finalement, pour rendre l'expérience vraiment convaincante, au-delà des sets qui sont très sympas. Par contre, en termes de jouabilité, c'est très rigolo. Mais disons que le scoring, etc., il est trop biaisé pour être intéressant. Mais du coup, les jeux de plateforme, c'est assez délicat. Je trouve que la gestion, c'est ce qui se prête le plus naturellement, de mon point de vue.
Non, effectivement. Enfin, ça me paraît assez cohérent, parce que justement, t'as tout l'aspect gestion de ressources, etc., qui est typique pour un jeu de plateau.
Bien sûr, et puis en ce moment, comme tu le disais, confinement oblige. Enfin, il y a de très bons jeux sur Steam, je vous invite à Mysterium, par exemple. Il existe en adaptation formelle, mais moi, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était le voir un peu plus loin, justement.
Ce qui est intéressant, c'est que les tablettes n'aient pas tellement popularisé ça, en fait. On aurait pu s'y attendre, mais il n'y a pas eu beaucoup de jeux type plateau sur tablette, alors que c'est un bon format pour ça.
Ouais, t'as eu Catan quand même, je pense, des choses
comme
ça.
Oui, t'en as eu quelques-uns. T'as eu Carcassonne aussi, je crois. Enfin, t'en as eu, mais pas énormément.
Mais je pense que de toute façon, le jeu, enfin, ce qui plaît dans le jeu de société, hein, rien que dans son nom, c'est le fait que tu sois entouré et c'est du local. Hein,
Non, mais je disais sur tablette, qui remplace du coup le plateau, mais tu t'es réuni autour, quoi.
Ah d'accord, oui, d'accord, malgré tout.
Ce qui a existé, mais... Ça
t'as des jeux cross, hein, t'as les Demeures de l'Épouvante, par exemple. Tu as un jeu, le Seigneur des Anneaux, je sais plus exactement son... Je crois que c'est le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, son nom. Ou Aventure en Terre du Milieu, peut-être, qui utilise aussi la tablette. Donc t'as des jeux comme ça qui mélangent un petit peu les deux univers et qui sont assez intéressants. Mais je pense que quand tu aimes les jeux de plateau, forcément tu aimes le carton, le papier, enfin tout ça, ça fait partie de la magie et du charme. Au moins de 50% du charme, c'est la boîte et c'est le plateau, tout ça évidemment. Donc ça joue beaucoup. Enfin voilà, pour le sujet, peut-être qu'on en reparlera dans un prochain épisode. La cartouche, c'est néanmoins terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'épisode est fini, mais l'after show vous attend juste après le générique. Nous parlerons notamment d'Animal Crossing, d'Among Us et d'Hyrule Warriors 2 qui vient juste de sortir. Je le tiens dans la main. Je n'y ai pas encore joué, hélas. Mais
et justement,
j'aurais
une question à te poser à ce sujet.
Oh là là. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, des réactions, des idées, je vous en parlais tout à l'heure, hein. Des idées de jeux à traiter, des rétros peut-être, des tops, bien par email tout simplement lacartouche@blueprint.pm ou sur Twitter @lacartouchebp, toujours sur Twitter, vous pouvez nous suivre, Yann c'est InxHD.
Mais oui. Et toi c'est @alexleserveur.
Exactement. Si vous vous sentez l'âme généreuse, vous pouvez nous laisser un commentaire sur Apple Podcast en cherchant La Cartouche. À très bientôt. Ciao.
Ciao.
Ah, cette musique.
C'est juste idéal pour terminer un épisode, ça.
Ah. Ouais. Tous les deux en même temps, le petit. Hein.
Ah, mais ça fait du bien d'être dans l'after show.
Hyrule Warriors tout de suite, puisqu'on en parlait, tiens.
Oui, bah en fait, la question que je voulais te poser, c'était ça va vraisemblablement être le sujet du prochain épisode.
Très certainement.
Tu nous diras tout de Hyrule Warriors. Tu vas avoir 2 semaines, là, vu qu'on enregistre la semaine dernière, si vous nous écoutez à la sortie de cet épisode. Tu vas tout avoir dans le time stream dans lequel on est actuellement, 2 semaines pour y jouer à fond. À quoi est-ce que tu t'attends? De sorte que les auditeurs qui nous entendent cette semaine, ou peut-être même qui ont les 2 épisodes de près, y compris l'épisode suivant consacré à Warriors, puissent avoir une idée et puissent comparer en fait en écoutant les 2 épisodes successivement.
Alors moi la chose que j'attends le plus en termes d'attente, en termes de désir en tout cas, et pour laquelle j'ai essayé de pas me spoiler, je me suis pas encore spoilé pour l'instant, c'était le roster. Donc j'ai été un peu rassuré parce qu'il y a plus de 10 personnages jouables, je vous dirai pas qui parce que j'ai réussi à ne pas me spoiler. On sait qu'il y a les 4 prodiges, Zelda, Link et Impa, ça on le sait, mais il y en a d'autres. Ce que j'aimais bien dans le premier Hyrule Warriors, c'est le côté crossover avec des personnages d'Ocarina of Time, de Wind Waker, de Link's Awakening. Enfin, et ça, c'est pas trop possible, je pense, dans celui-là. C'est ce qui m'attriste un petit peu, mais pour de la cohérence narrative, c'est un petit peu mieux quand même. Mais bon. Donc, j'ai envie de voir un petit peu quels sont les personnages. C'est vraiment du fanservice pur, hein, pour le coup. Et au-delà de ça, ça va être le gameplay, parce que le gameplay est très, très différent par rapport au premier. Il est bien plus exigeant, bien plus complexe, je trouve aussi, à prendre en main, donc il va falloir que je révise un petit peu avant d'y rejouer. Et parfois déroutant, il me passe, j'ai un petit peu eu du mal à comprendre comment elle se joue. Mais j'ai aussi envie de voir en termes de narration ce que ça apporte par rapport à Breath of the Wild. J'ai lu un petit peu tout et son contraire dans les thèses, comme quoi ça s'intégrait bien, et finalement ça s'intègre pas vraiment avec le premier Breath of the Wild. Ça peut pas être canonique pour une raison que j'ignore pour l'instant. Mais j'ai envie de voir ce que ça va donner, parce que ça me donne en fait l'envie d'avoir des jeux Zelda qui s'intègrent dans l'univers de Zelda, mais qui ne sont pas des Zelda à proprement parler, pour grossir le lore en fait, hein, tout simplement, qui mérite en fait d'être exploité, parce que je trouve que tous les épisodes, hein, que ce soit Ocarina, Twilight, enfin tous ont un lore en fait à eux-mêmes, et c'est dommage en fait finalement de ne pas le prolonger à travers d'autres aventures. Donc dans Breath of the Wild, ils ont bien rentabilisé leur bac à sable, vu qu'ils nous font un épisode 2 et ils nous sortent ce spin-off. Mais voilà, ce serait franchement, on me propose un Hyrule Warriors, alors peut-être pas un Hyrule Warriors, mais on va repartir sur cet exemple-ci, qui se déroule dans Ocarina of Time et où tu rejoues avec les sages, etc. Moi, je signe tout de suite en fait, finalement. Donc c'est ça en fait qui me donne envie, c'est qu'on puisse développer l'univers de chaque épisode de Zelda, tout bêtement. Toi, tu comptes le, tu passes ton tour sur celui-là.
J'ai tellement de jeux à faire. J'ai déjà Sackboy à avancer, bah, idéalement à terminer.
La PS5.
J'ai Hades sur le truc.
Il faut faire des choix.
Non, il faut faire des choix, et très clairement, celui-là, ce sera genre en solde en 2021 si j'ai le temps en 2021. Non, honnêtement, pas tout de suite. La démo, j'en avais déjà parlé, mais la démo m'avait convaincu dans le sens où j'avais déjà joué un petit peu à l'original que j'avais emprunté à une bibliothèque et j'avais pas particulièrement, enfin j'avais trouvé ça un peu limité, pas hyper fun. J'ai trouvé beaucoup plus fun la démo du coup de ce l'ère du fléau, et du coup oui pourquoi pas, mais franchement il y a plein d'autres jeux prioritaires aujourd'hui, donc tant pis, mais j'ai super hâte de t'en entendre parler, de voir si au-delà de la démo il y a encore d'autres raisons pour moi justement de changer un petit peu d'avis et de le rendre plus prioritaire dans ma playlist en quelque sorte.
Est-ce que t'as testé, pour changer un petit peu de sujet, pour prendre un jeu popcorn du coup qui te prendra pas trop de temps?
Ouais.
Among Us.
Oui, j'ai joué avec quelques amis à Among Us il y a quelques semaines. J'ai joué 3-4 heures en tout.
Ah, j'ai pu y jouer enfin du mm-hmm. coup. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'épisode, il me semble.
Il est possible qu'on en ait parlé quelques... Ouais, j'ai peut-être dû en dire quelques mots lors d'un précédent after show. C'est pas inimaginable.
Et c'est vraiment très fun. J'avoue que j'y allais un petit peu genre ah, c'est le jeu du moment, c'est le jeu de la hype et tout. Et au final, franchement, le côté bluff et tout, c'est assez redoutable. Et je suis du coup le jeu là, ils ont teasé une nouvelle carte qui m'intéresse. Alors j'en connais qu'une seule hein, pour l'instant de cartes. Hein, je connais que le vaisseau. Mmh. Et c'est quand même complexe. Je trouve que c'est un jeu difficile dans le sens où faut se souvenir de qui t'as croisé à quel moment machin et tous les couleurs.
C'est de l'attention quand tu joues, tous les instants. Ouais.
Quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas, parce que là je joue avec des gens que je connaissais et des gens que je ne connais, et beaucoup de gens que je ne connaissais pas malheureusement. C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que tu as moins d'ancrage mental. Si tu veux, enfin moi j'ai besoin d'imaginer les gens que je croise, et si je joue avec toi et Franck etc, ce serait beaucoup plus facile par exemple, parce que je sais ah tiens j'ai croisé telle personne à tel endroit.
Ouais.
Quand tu connais pas, waouh, c'est fou, c'est difficile.
Mais d'une certaine, oui et non, parce que d'une certaine manière ça te permet un petit peu de sortir de je connais telle personne, je connais son caractère etc, et ça t'immerge un peu plus dans justement le concept du jeu qui est personne se parle et ce ne sont que des noms et des couleurs sur des personnages quoi.
C'est vrai, ça permet de un petit peu de mieux bluffer, puisque aussi tu pars les gens ne te connaissent pas non plus, donc quelque part tu pars avec aussi ce petit avantage.
En tout cas. Mais sur les premières parties
C'était vraiment très drôle, je me suis beaucoup beaucoup amusé. Donc franchement, faudra qu'on se fasse des parties à l'occasion.
Volontiers, c'est vraiment fun, ça tourne sur n'importe quelle machine, enfin vraiment
ça coûte 4 euros.
C'est léger comme pas permis, ça coûte 4 euros. Ouais, ça coûte vraiment rien. Non, enfin c'est rigolo, c'est même gratuit sur mobile d'ailleurs, donc c'est te dire. Et c'est crossplay, tu peux jouer sur mobile, tu peux jouer sur PC depuis les mêmes sur les mêmes serveurs. Non, moi j'aime bien Among Us et j'aime bien regarder des vidéos de gens qui jouent à Among Us. Oui. Alors ça dépend un petit peu de qui, mais si t'as des youtubeurs que t'aimes bien, s'ils jouent à Among Us, c'est toujours assez fun à regarder.
C'est drôle. Mais surtout c'est drôle aussi parce que tu participes à l'enquête en fait finalement. C'est que t'essaies de trouver qui sont les imposteurs, ou alors si tu vois l'imposteur, c'est aussi de voir comment lui il va embrouiller en fait finalement les
autres. Oui, c'est un bon épisode de Columbo où tu connais quel meurtrier mais tu sais pas comment. Ah.
C'est vraiment génial et c'est assez excitant à suivre. Est-ce que tu joues encore? Vas-y.
Non, j'allais dire assez excitant à suivre, c'est aussi la mise à jour Animal Crossing.
Bah, j'allais faire la transition aussi du coup. J'allais dire, est-ce que tu joues encore Animal Crossing?
Ponctuellement, oui, effectivement, une ou deux fois par semaine. À ce stade, j'attends avec grande impatience le retour de la neige. Et je dois dire, je suis assez saucé par ce qui a été annoncé d'un point de vue purement technique sur le transfert de l'île.
Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui te sauce?
Le fait qu'il est sur ma Switch actuellement, Animal Crossing, et que je peux peut-être assez facilement le transférer du coup sur la Switch Lite si je veux, ce qui était impossible auparavant. Je pouvais vraiment que n'y jouer sur une seule des deux consoles, ce qui était un peu dommage. Il y a ça d'une part, et puis d'autre part, c'est en cas de pépin, si jamais ma Switch a un problème et je dois en passer à une autre, mais je sais que je pourrais facilement emporter mon village, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant.
Je joue pas mal en ce moment, je joue un petit peu plus parce que les champignons et les feuilles qui tombent, ça m'a redonné un petit peu d'intérêt.
Feuilles.
Ouais, les petits tas de feuilles, c'est mignon. Je trouve que la collection champignons est très 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 mignonne, la table champignons est adorable. Et je suis sur le point de finir le musée, donc il me reste un insecte, trois poissons et quatre créatures marines.
Sans voyager dans le temps?
Sans voyager dans le temps, bien évidemment.
Bravo.
Que je suis à jour sur quasiment, et j'ai un poisson que j'arrive pas à voir. Mais c'est le macropina, il est là toute l'année, donc il est rare. Il est après 21h et il veut pas venir. Bon, écoute, je me tape que des chinchards à la place. Mais c'est pas mal là, l'automne. Je trouve que ça redonne un petit peu de peps, mais je trouve que on est vraiment sur une routine ronflante malheureusement là. Et moi j'attends d'une mise à jour. Là donc celle qui viennent d'annoncer, c'est bah il y a des petites mimiques en plus, il y a des coupes de cheveux en plus, il y a le fait de pouvoir voyager aléatoirement en rêve. Ça c'est très bien. Je trouve des rêves aléatoires, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc tu as la visite de Dindou fin novembre pour Thanksgiving, le jour du partage, et puis le reine, je me souviens plus de son nom, René peut-être, j'en sais rien, qui arrive.
ça sera une taupe ça, voyons.
Il y a pas Yetiti, peut-être qu'il y aura Yetiti quand même, j'espère qu'il y aura Yetiti en décembre.
Si on
même
nous l'a pas montré, c'est improbable, mais on verra.
Bah, en même temps, Yetiti, il faut que tu le construises, quoi, de mémoire. Fallait que tu l'assembles en bonhomme de neige.
Ça me paraît, vu les trucs qu'ils ont droppés par rapport aux précédents Animal Crossing, ça me paraît pas surprenant qu'ils l'aient pas mis.
Bah, c'est triste.
Oui, c'est triste. Ouais, oui, je te confirme, oui, mais c'est.
Il y a plein de trucs tristes en même temps.
C'est à l'image d'un jeu qui a lâché pas mal de trucs, qui étaient des conventions jusqu'à l'épisode 3DS, quoi.
On rêve un petit peu du café. Je me disais, le café, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse l'aménager.
Ouais, ce serait bien qu'il existe déjà pour commencer.
Ce serait bien qu'il existe, mais tu vois, je pense qu'il pourrait intéresser un peu plus si on pouvait aménager finalement les maisons de nos voisins aussi. Un petit peu à la Happy Home Designer, on te rajoute des petites missions, le voisin qui dit tiens, je veux changer ma maison aujourd'hui, tout ça. Je trouve que, en fait, ça.
Ben.
Là, la limite de l'intelligence, enfin, pas du tout intelligence artificielle, la limite des scripts des PNJ, enfin là, bon, clairement, j'aurais dit bonjour une fois. Mais je leur adresse pas plus la parole parce que c'est, ils se répètent, mais constamment.
Pareil,
c'est chiant, quoi.
Pareil. Et même en limitant les interactions avec eux, t'as déjà de la répétition, ce qui est dingue.
Mais oui.
C'est regrettable. Et c'est dommage. Enfin, ça serait bien que Nintendo vienne et fasse. Et dans la prochaine mise à jour, on a ajouté 5000 lignes de dialogue. Palimpin, palimpin. Ça, ce serait chouette, par exemple.
Complètement. Complètement.
Et ça paraît bizarre parce que c'est pas une nouvelle fonctionnalité, c'est pas un nouveau lieu, c'est pas un personnage, c'est pas un événement. Mais c'est juste.
Je pense que c'est...
Ça rend le jeu globalement mieux, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est pour ça que ça arrivera jamais, parce que c'est pas assez visible, entre guillemets. Enfin, c'est difficile de marketer, tu vois. Ouais. Contrairement à Dindou, on te le présente à tout le monde. Voilà, vous avez.
Dindou. GOTY 2020, Dindou.
Dindou. Non, mais j'adore. Dindou.
Dindou.
C'est juste formidable. Dindou.
Dindou. Donc,
mais ouais, je continue à y jouer, mais malgré tout, je sens que l'anniversaire va être rude. J'espère que pour les 1 an, enfin, soit il frappe fort. Soit ce sera la fin pour beaucoup de joueurs. Je pense que quand ils auront passé l'année, quand ils auront fait le cycle annuel, je pense que ce sera au revoir.
Honnêtement, je suis à la place de Nintendo. J'ai vendu combien de millions d'Animal Crossing? Je vais vérifier ça. Mais j'ai vendu autant de jeux. La question que je me pose, c'est... Je pourrais pas faire un peu de DLC payant? Juste un petit peu.
Oui, bien sûr.
Juste un petit peu, parce que ça représenterait tellement de pognon. Je pense.
Puis,
hein.
D'un point de vue, on va être strictement d'un point de vue d'entreprise. Ton jeu, c'est déjà tellement vendu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir des DLC gratuits?
Il est sorti fin mars. À fin septembre, il s'était écoulé à 26 millions d'exemplaires.
Ah bah ouais, c'est phénoménal.
C'est le deuxième meilleur jeu le plus vendu de la Switch.
Franchement,
quoi.
Le jeu est déjà tellement rentabilisé, on cherche pas à le vendre davantage. Est-ce que ça vaut le coup de faire des DLC gratuits? Allez, on lâche le truc et on fait un DLC payant, peut-être, effectivement. Donc ça peut être quelque chose. Moi je suis prêt. Si ce qu'on propose est intéressant, pourquoi pas?
Ouais.
Pourquoi pas? On je sais pas, une deuxième île, on agrandit ton île. Enfin, c'est compliqué d'agrandir, mais non, mais un truc un peu plus urbain, entre guillemets, à la manière de Let's Go to the City. Pourquoi pas? Enfin, il y a des choses à faire, des choses à voir, mais. Mais je pense qu'il faut frapper fort pour l'anniversaire. Moi, ça me paraît indispensable. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils vont sortir le café et les gyroïdes et des choses comme ça? Est-ce que ce serait suffisant? Hein, honnêtement, c'est pas parce que tu dis ah, les gyroïdes maintenant. Bah,
tu l'entends pas, okay. Mais je lève mes sourcils.
Ouais, voilà.
Je sais pas trop. Non, mais ça fait partie de ces jeux-là où, clairement, autant Mario Kart 8 Deluxe, il s'est beaucoup vendu, mais il est suffisamment, entre guillemets, mort pour pas qu'il débarque avec un DLC payant. Animal Crossing, il est encore assez frais pour le faire. On est dans la
Bien
première
sûr.
Année du jeu, s'il voulait vraiment, il pourrait. Donc, je garde espoir d'une certaine manière, parce que je me dis que ça pourrait être du contenu en plus et ça pourrait être positif, même si évidemment débourser pour un jeu qui est incomplet, c'est quand même pas hyper heureux, mais bon, voilà.
Après, ton DLC payant, ça peut être aussi le retour des cartes Amiibo. Hein. Comment tu trouves une manière de mieux les intégrer dans le jeu ? C'est... Ça peut aussi être une porte de sortie. Hein.
C'est possible.
Une porte d'entrée, pour le coup.
C'est possible, mais avec... Tain, stratégiquement, je préférerais baser ça sur ce qui peut être distribué directement avec la console en démat, plutôt que de dépendre des circuits de distribution qui, étant donné la période actuelle, n'est pas le truc le plus fiable du monde.
C'est sûr, c'est sûr. Si on revient effectivement au contexte...
Ouais. C'est comme ça que je le vois. C'est vrai que la compatibilité Amiibo de ce jeu-là est pas hyper poussée. Hein. À part inviter quelqu'un dans ton camping.
Ouais, mais imagine une carte Amiibo de dindou.